Connaître pour aimer.
Aimer pour protéger.
Dans la nature. Radio Biodive.
Les actus. Les sorties. Les interviews.
Radio Biodive. L'émission qui parle de ta nature.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette sixième émission. On est au mois d'avril et ça sent fort le printemps. De quoi on va parler, Philippe, aujourd'hui ?
Ah, bah on va parler d'hirondelles. Bah, c'est normal, hein, les hirondelles font le printemps.
Bah, il paraît, ouais, de moins en moins. Mais...
Et puis on va parler de jardin aussi.
Ah, cool.
Et aujourd'hui, on est avec Alex et Philippe, mais aussi Camille.
Bonjour à tous.
Et Joël.
Bonjour à tous.
Une équipe qui gagne. Bah écoute, je vous propose de passer tout de suite au petit jeu.
Ah bah le petit jeu, oui.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Alors, vous vous souvenez, le principe, c'est d'écouter un son de la nature, et puis d'essayer de deviner ce que c'est, qui c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a enregistré dans la nature. Vous avez le temps de l'émission pour trouver la solution, et à la fin de l'émission, on vous donnera la solution. Voici le son.
Allez, c'est pas trop dur, on vous laisse toute l'émission pour retrouver. Et bah, je vous propose de maintenant passer aux actualités du mois.
Alors, c'est moi qui vais commencer. Je vais commencer par un article. C'est à la fois, c'est deux articles qui sont sur Reporter. C'est à propos des loups et à propos du fait qu'on tue des loups en France, alors que le loup est un animal protégé, comme chacun sait. Le premier article, qui est un peu ancien, il était en 2025, il disait qu'on n'écoute pas les scientifiques sur les alternatives. Et le dernier article, toujours sur Reporter, ça reprend un peu la même thématique, mais ça parle un petit peu du suivi des loups et de comment. Alors pourquoi on n'écoute pas les scientifiques ? Bah, c'est tout simplement parce qu'on les scientifiques se sont rendus compte que tuer des loups, finalement, c'était plutôt contre-productif. C'est-à-dire que quand on tue un loup, on ne cherche pas forcément à sélectionner, et quelquefois ce sont les mâles ou les femelles alpha, ceux qui dirigent la meute, et quand on tue un animal comme ça qui dirige la meute, bah, ça désorganise la meute. Il y a des jeunes qui peuvent partir ailleurs pour se reproduire et qui peuvent, bah, comme ils ne sont plus en meute, ils vont pas forcément s'attaquer au gibier sauvage, ils vont s'attaquer au plus facile, c'est-à-dire par exemple aux brebis. Et alors que quand on a une meute, il y a un contrôle des reproductions, il n'y a que le mâle et la femelle alpha qui se reproduisent, et les autres sont contrôlés en quelque sorte. Donc, tuer les loups, il faut réfléchir, il faut leur faire peur quand ils sont près des brebis, bien sûr, parce qu'il faut protéger les élevages, mais voilà, vous lirez pour en savoir plus. Alex, tu vas nous parler de quoi ?
Eh ben moi, je vais vous parler de scientifiques qui ont fait une étude sur l'effet de la cocaïne sur les saumons. Pourquoi
ils se droguent, les saumons ?
Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on connaissait les pollutions au PFAS, on connaissait les résidus de médicaments, etc., notamment les pilules contraceptives qui peuvent avoir un effet sur la reproduction des poissons. Mais figurez-vous qu'on trouve de plus en plus également dans l'eau des rivières des résidus de cocaïne dus aux urines en fait, de ceux qui en consomment. Et malheureusement, suite à cette étude, ils se sont rendus compte que ça avait un effet sur les poissons et qu'ils pouvaient se disperser à 12 km, ceux qui étaient sous l'effet de la cocaïne, plus rapide que ceux qui ne le sont pas. Et en fait, ça pose beaucoup de questions. Alors, c'est les débuts de l'étude, mais ça pose beaucoup de questions sur l'effet en fait, que ça va avoir sur la reproduction et la survie de cette espèce. Il faut déjà savoir qu'en Europe, notamment en France, le saumon atlantique est déjà très menacé, quasi en bord de l'extinction à cause de la surpêche. Et ça provoque un effet en plus qui pourrait porter atteinte à l'espèce. Donc voilà, des petits chiffres, vous retrouverez tous les chiffres précis sur Reporter, hein, c'est aussi un article de Reporter, mais on est passé que de quelques tonnes, attendez, que je vous dise pas de bêtises, 4000 tonnes en 2024, donc c'est la production de cocaïne a explosé, c'est un peu un nouveau fléau qui touche l'Europe, et voilà, donc... Faut faire attention à sa consommation.
On vous rappelle qu'on mettra toutes les références, vous pourrez lire les articles en entier sur le site du podcast de l'émission. Alors, plutôt une bonne nouvelle maintenant, je vais commencer par quelque chose de moins joyeux. Vous avez constaté tous que les insectes sont en déclin partout en Europe, mais en France. L'un des indices dont on parle assez souvent, alors surtout pour les vieux comme moi, quand on voyageait en voiture et que l'essence n'était pas trop chère, on faisait quelques kilomètres, parfois quelques dizaines de kilomètres, et on retrouvait son pare-brise tout sale parce que des insectes étaient écrasés sur les pare-brises. Et maintenant, quand on fait 100 kilomètres, ben ma foi, le pare-brise il reste à peu près propre. Et donc c'est un des signes du déclin. Et là, le Muséum d'Histoire Naturelle vous propose de faire des sciences participatives, de leur apporter des données d'une façon un petit peu originale. Ça consiste à nettoyer sa plaque d'immatriculation, la plaque de devant bien sûr. On la nettoie bien, elle est nickel, on fait un petit voyage avec sa voiture, et puis ensuite on fait une deuxième photo. Et il y a une application... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous trouverez ça sur le site de l'émission.
Ou du muséum.
Bugs ou du muséum. Donc il y a un article sur France Info, et puis il y a l'article directement du muséum. Et eux vont traiter vos images, et ils vont savoir combien d'insectes se sont écrasés sur la plaque, et en fonction du nombre de kilomètres. Voilà, c'est une façon un peu originale de faire des sciences participatives et d'apporter des informations pour les scientifiques.
Eh ben moi, je vais encore vous parler d'une étude scientifique qui est plutôt positive. Un rapport, donc ça a été diffusé sur France Inter, mais on trouve l'information sur différents médias. Des chercheurs ont étudié un corridor fluvial en Suisse, dans lequel il y a de nombreux castors. Et ils affirment qu'en 13 ans, ce territoire comprenant un cours d'eau et ses berges, et les zones humides autour, a stocké 1200 tonnes de carbone, soit 10 tonnes par hectare et par an. Selon leur estimation, c'est 10 fois plus que ce territoire aurait stocké s'il n'avait pas été aménagé par les castors. Donc, le retour du castor est une bonne chose et permet, en fait, si on se rend compte que la biodiversité est bien faite et qu'il n'y a pas mieux pour stocker le carbone que la biodiversité, que ce soit les prairies ou, là, on le voit sur l'effet des castors. Donc, laissons de la place à la nature et ça nous aidera peut-être à limiter notre impact sur le réchauffement climatique.
We hear it only when it rings.
Eh bien, c'était Black Haired Boy de Agathe Plaisance. Et maintenant, ça va être l'instant nature.
Je pense que le chemin, c'est ça.
Ah ouais. Ah, c'est un ruisseau, c'est plus un chemin. Heureusement qu'on a mis les bottes.
Aujourd'hui, on va voir un jardin en plein aménagement. Et les jardiniers qui l'aménagent, les paysagistes.
Bienvenue dans Radio Biodive. Je me trouve actuellement dans la nature.
Bonjour Nina.
Bonjour Philippe.
Qu'est-ce que tu fais toi ce matin?
Alors moi je plante une haie nourricière en quinconce et ma poche sonne. Je suis désolée, c'est le téléphone d'entreprise. Le temps de la terre, bonjour.
Donc tu plantes une haie, c'est une haie comment tu as dit?
Alors c'est une haie nourricière, à la fois pour les humains, et pour toute la biodiversité qui vit aux alentours, donc les oiseaux, les insectes, je pense que les oiseaux vont se régaler. On a plein de choses différentes, elle est très variée. Donc les espèces classiques qu'on trouve dans les noisetiers, prunelliers, aubépines, sureaux, on a aussi un peu de houx, mais on a fait aussi une haie où il y a des choses à manger dedans. Du coup, on trouve aussi un figuier, des poiriers et des pommiers communs.
Donc ça, ce sera de la nourriture partagée finalement.
Ça sera de la nourriture partagée et même des amélanchiers. Et ce qu'on a décidé de faire sur cette partie de la haie, c'est que donc on double une haie qui est existante.
Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Comment donc ça se fait de planter une haie là alors qu'il y en a une à côté?
Alors, c'est une haie qui n'appartient pas à la propriétaire des lieux. Et donc, c'est une haie ancienne sur talus. Donc, on est vraiment sur un pré classique qui est entouré de quatre haies. Mais sur les quatre haies, il y a deux haies qui lui appartiennent et deux haies qui ne lui appartiennent pas. Avec les années, la haie, elle s'abîme déjà. Il y a eu quelques arbres qui sont tombés. Elle n'est pas très, très en forme partout. Et surtout, souvent, il y a des branches qui sont coupées de l'autre côté où il y a un champ. Et donc, la propriétaire a peur qu'un jour, cette haie disparaisse. Ce qui serait vraiment dommage parce qu'elle a une belle variété. Donc là, c'est principalement des chênes, des noisetiers, il y a des aubépines et des pruneliers un petit peu, puis des ronces. Mais il y a aussi, on voit beaucoup de traces dans la haie, donc elle est très fréquentée à la fois par les oiseaux et par les mammifères. Et donc elle avait peur que si la haie disparaisse, ce sera une grosse perte pour la biodiversité. Donc on a décidé de la doubler et de faire une haie qui était plus variée et plus nourricière, qui sera un peu moins haute aussi, puisque comme on plante un verger, on essaye de garder, de conserver un petit peu de lumière sur ce verger. Voilà, et donc là on a une haie en quinconce, et un peu plus haut, à côté de la mare, on a fait des talus, pour reprendre un peu l'idée de la haie classique qu'on trouve dans le Cotentin. Et donc on va planter en un seul arbre, pas en quinconce, sur le talus.
Je quitte un moment Nina pour me rapprocher de la mare.
Bonjour Louane.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je creuse un trou de plantation pour le cerisier qui va être planté ici. Et je récupère un peu de terre pour praliner les plantes en racines nues.
D'accord. Quel outil tu utilises là?
J'utilise une houe. Une houe en cœur, elles sont pratiques parce qu'elles permettent de rentrer en profondeur dans les terres argileuses.
Et là donc avec tu creuses un trou pour planter un arbre et tu mets un peu de terre dans une poubelle.
Dans une bassine que je remplirai avec un peu d'eau, de la mare. Je mélangerai pour que ça fasse une pâte un peu style appareil à gâteau, un peu enrobant. Et après je viendrai plonger toutes mes racines nues. Pour faire comme ce qu'on appelle un pralinage, mais c'est la même chose qu'on fait avec des cacahuètes quand on les praline. C'est vraiment le même principe, c'est on met une fine couche de terre humide tout autour.
D'accord. Eh bien, bon courage.
Merci.
Je rejoins maintenant Vladimir qui se débattait avec un vieux grillage entremêlé dans des ronces.
Donc ça y est, là, tu as réussi à retirer le grillage.
Ouais, il n'y a plus rien.
Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Juste passer un petit coup de lime sur ma lame de fauchon forestier. Une grosse lame très épaisse et qui a justement pris quelques barbelés hier dans le passage.
Tu vas faucher pour
leur donner son tranchant, puis après je débroussaille. Ouais.
Tu débroussailles
pour faire le chemin et puis laisser accessible la partie de la haie et la place où on va planter.
Ok.
Voilà.
Ce matin, on a refait le tour pour positionner la haie du fond, parce que la haie du fond, elle sera doublée aussi. Et du coup, on va la doubler, mais de façon un peu différente. C'est une zone qui est assez humide, et donc on va planter des saules pour pouvoir récolter de l'osier. Et donc, il va y avoir deux arbres qui seront menés en trogne, et
pour
en trogne un peu haute, oui. Et puis les autres seront récoltés au niveau du sol. Pour que ce soit assez facile à faire. Et en allant regarder cette zone-là ce matin pour voir où il fallait faucher, en fait, on a trouvé les toilettes du blaireau.
Non.
Mais
ah
oui,
ouais, des
et du coup, il y a toute une zone dans l'angle la masse où le très gros chêne qui est très fréquenté apparemment. Et
donc
c'est tout frais.
Les pots de blaireau, tu peux nous dire ce que c'est, enfin, voilà.
Alors, les blaireaux, ils sont très propres. Ils font des trous dans le sol et ils font leurs besoins dedans. Donc, il y a des zones qui sont vraiment réservées à ça. Et on voit des dizaines de trous avec
des petites crottes dedans.
Ou de grosses crottes dedans, d'ailleurs. Voilà. Mais ce n'est pas le lieu où ils habitent. C'est vraiment un lieu qui est dédié à leur toilette.
Attention, la prime verte. T'as le pied dessus.
Non.
Ah, bah si. Si. Si.
C'est mon biodiversité à la con, hein.
Ça enregistre, Vladimir, ça enregistre.
Exact.
Ah oui.
Donc j'ai cru comprendre que vous aimiez la biodiversité.
Pas du tout. Pas du tout.
Parfait, parfait.
Tu nous dis qu'à un moment, il faut qu'il revienne sérieux.
Non, ce que j'aurais voulu savoir, c'est ce jardin, qu'est-ce que vous avez fait dedans? Voilà, quels sont les aménagements que vous faites dans ce jardin?
Est-ce qu'on commence par te le décrire un peu?
Ah oui.
Parce que je crois que tu n'as pas d'image.
Et avant, après?
Avant, après. Cool. À deux heures, assieds-toi.
Ouais. Avant, ici, il y avait un grand sapin. Et du coup, c'était une zone très très sombre au niveau de la cabane et au niveau du feu.
Oui, parce que là, tel que ce que je vois là, on a une petite cabane. Et devant, on a le tronc énorme du cyprès qui a été abattu.
C'est ça. Et qui menaçait un petit peu de s'écrouler parce qu'il était, il a poussé en deux troncs. Et qui se sont soudés à la base, mais qui étaient en train de se fissurer. Donc il a fallu l'abattre pour des raisons un peu de sécurité. Et puis bon, bah, ça permettait aussi de réouvrir la zone, d'enlever la clôture qui venait créer un sorte de petit jardin autour de la cabane. Et pour que l'ensemble devienne un seul et même jardin, quoi.
D'accord.
Du coup, on est sur un des côtés du mont Deauville et c'est un pré qui est encore entouré de toutes ces haies. Donc on a vraiment quatre talus. C'est une parcelle qui est assez étroite et qui est longue qui descend vers la mer. Donc c'est aussi un lieu où on a de très bons points de vue à plusieurs heures de la journée où on voit vraiment la mer le soir qui se reflète. Donc c'est assez intéressant et donc le fait que le cyprès soit plus là a permis aussi, depuis l'espace de la cabane, de réouvrir la vue sur la presqu'île.
Du coup, on a commencé à travailler là par étapes, on va dire, il y a déjà un moment. Alors, ça fait deux ans, en gros, qu'on a commencé un petit peu à intervenir. D'abord, en venant faucher, parce que ça commençait à se rembroussailler pas mal. On est sur le bord du mont Deauville, du coup, on a quand même pas mal de lumière ici. On est en pente, il y a une partie de la zone qui est très très humide, une partie qui l'est un peu moins. Donc ça a tendance à s'enfricher assez vite avec des fougères aigles, des ronces. Du coup, une de nos premières interventions, puisque nous permettait aussi de nous faire un peu la main sur un grand terrain à la faux, ça a été de venir faucher à la faux, voir aussi un petit peu comment le terrain se comportait, où est-ce que se trouvaient les zones de rétention d'eau. Voilà, donc on a pris le temps de créer le projet, on va dire. Et puis après, du coup, les aménagements qui ont été faits, ça a commencé cette année à plus grande échelle. Donc l'idée, c'est de venir créer un verger ici, mais pas que. C'est un peu un verger jardin aussi, un espace de convivialité autour de la cabane, un endroit pour se réunir, un endroit aussi pour faire des animations. Donc c'est un lieu de rencontre et un lieu de vie de façon générale, autant pour les humains que les non-humains. Et donc du coup dans ce projet-là, l'idée c'était de venir faire effectivement une mare, une grande mare, une partie verger, une partie plus jardinée, une partie autour ici qui est plus une zone de convivialité avec le feu, les tables, etc. Et le tout en respectant au maximum le vivant et puis l'existant aussi, ce qui est déjà là. Donc aussi bien les animaux qui sont là, mais aussi toutes les plantes. On essaie vraiment de faucher en faisant le tour des plantes qui nous intéressent, celles qui sont un peu plus, un peu plus sympas. Et puis de toute façon, on laisse un peu de tout parce que le terrain est grand. Donc il y a de la place pour les ronces encore, pour les orties, pour tout ça. Et puis après, l'autre intervention qu'on peut avoir, c'est de venir diversifier. Parce que de toute façon, on est sur une petite parcelle, donc on est sur un milieu relativement homogène. Donc là où on peut avoir un impact, c'est venir diversifier du coup cette parcelle-là, créer des milieux qui n'étaient pas présents.
Comme la mare, par exemple.
Comme la mare, comme les SH. Il y a des tas de pierres là qui sont autour du foyer.
J'ai entendu un mot bizarre, c'est hibernaculum, ah, non, oui. C'est ça ?
Dans la mare, dans le talus de la mare, il y a un hibernaculum.
C'est quoi ça ?
C'est
un tas de pierres.
C'est un tas de pierres, de branches recouvertes de terre, en partie. Qui permet à des serpents par exemple de venir passer l'hiver à l'intérieur, à des lézards de se réchauffer sur la pierre qui est au soleil. Comme les pierres chauffent, ça emmagasine de la chaleur et ça permet d'améliorer les conditions de vie des espèces à sang froid.
Je reviens sur le nom du temps de la terre. Dedans, il y a aussi le temps. Et c'est vrai que le fait de pouvoir intervenir dans un jardin où on l'a observé presque pendant 2 ans avant d'intervenir réellement sur le terrain, on sait qu'on reviendra intervenir dedans sur plusieurs années. Comme on a tendance à planter des tout petits arbres qui se ressemblent à des petites brindilles pour l'instant, en fait, le temps que les choses s'installent, on trouve que c'est important aussi pour les jardiniers de prendre en compte ce temps et de continuer à venir entretenir et observer et peut-être faire évoluer le jardin au fil des années.
Alors, sa spécificité, comme un peu le nom l'indique, parce qu'on a choisi évidemment un nom qui disait quel était le projet qu'on avait derrière, c'est, on va dire, une double spécificité, à la fois la volonté de faire du paysage vivant, donc vraiment en respectant la nature, en respectant aussi les gens, puisqu'on fait partie du paysage et du vivant. Et il y a une autre spécificité qui est, je parle vraiment de choses générales là, le fait qu'on ait voulu faire une entreprise qui soit éthique. Donc on a aussi cette dimension sociale, démocratique. Donc on est sur une forme qui est très très proche d'une coopérative, avec très peu de hiérarchie. Des systèmes de décision qu'on essaye de rendre toujours plus démocratiques. et puis du coup, un usage à la fois des outils, des matériaux, des logiciels qu'on utilise, qui soient aussi à la fois le plus respectueux, le moins consommateur de ressources, le plus aussi, on va dire, en faveur des libertés qu'on puisse avoir. Et donc ça nous mène à une autre spécificité, c'est la plus technique de l'entreprise, qui est qu'on travaille quasiment non motorisé à 100%. Donc à quelques exceptions près quand on n'a vraiment pas le choix, mais...
Oui, on a entendu au cours du reportage une machine, mais je crois que c'était le voisin qui...
C'était le voisin, oui, là c'était pas nous. Nous on intervient avec quelques machines de façon très exceptionnelle, mais c'est vraiment pas l'esprit de l'entreprise, donc on essaye d'éviter au maximum. Ouais, donc c'est surtout dans des grosses opérations de terrassement. Sinon, tout le reste, donc fauche, tonte, coupe de bois, tout ça, en fait, on est vraiment que avec des outils non motorisés, donc non thermiques, non électriques. Et ça rejoint à la fois une volonté de ne pas détruire l'environnement, donc de ne pas consommer de ressources. Il y a aussi une question de respect des lieux, parce que le problème des machines, c'est que c'est tellement efficace, parce que c'est l'énergie qui fait le travail, que même avec un opérateur très bien intentionné, on va toujours trop loin, enfin, quasiment toujours trop loin. Même quand on est très très écolo, on a tendance à se laisser emporter par la machine parce que c'est trop efficace, donc on tombe trop, on coupe trop, on débroussaille trop, sans forcément se poser la question de savoir si c'est vraiment vraiment nécessaire. Et puis du coup il y a une autre raison dans ce choix de recourir le moins possible, en tout cas de façon très raisonnée, aux machines. C'est la question aussi des libertés de nous, déjà en tant que jardiniers, des autres aussi, parce que du coup ça nous permet de nous fournir quasiment à 100% dans des fabriques européennes, donc chez des artisans, un petit peu aussi plus loin au Japon par exemple, mais en tout cas que chez des gens qui ont un vrai savoir-faire, un travail respecté, des droits, et pas, on n'achète pas des tondeuses du coup qui sont fabriquées par des enfants dans le tiers-monde. Donc il y a cette volonté-là, et puis les outils manuels, c'est aussi des outils qui sont réparables, qu'on peut entretenir quasiment toute la vie, réparer, refaire, adapter à nous, à notre usage, détourner. Donc voilà, ça nous permet d'être vraiment libre et de laisser les autres libres aussi.
Eh bien, on est toujours sur Principe Actif et on est toujours dans notre émission Radio Biodive. Et maintenant, ça va être l'espèce du mois.
Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, comment tu t'appelles ?
Alors, l'espèce du mois est une hirondelle.
Mais laquelle ? Parce que des hirondelles, il y en a plusieurs.
Alors, on va principalement parler de l'hirondelle de fenêtre, mais on verra aussi rapidement l'hirondelle rustique, l'hirondelle de rivage et un autre oiseau qui ressemble beaucoup, qu'on confond souvent avec les hirondelles, mais qui pourtant n'en est pas une.
Lequel ?
Ah, un peu de patience. Tu verras bien. Tu peux nous en dire quand même un petit peu plus sur le nom de l'hirondelle de fenêtre ?
Ah oui, mais je suis impatient de savoir quel est cet oiseau mystère. Bon, enfin, l'hirondelle de fenêtre s'appelle hirondelle de fenêtre, tout simplement parce que c'est une hirondelle. Alors, hirondelle, c'est, en vieux français, c'est aronde. En latin, c'est hirundo. Donc, tout simplement, voilà, c'est la même chose, hirondelle, hirundo. Et elle fait ses nids sur les façades des maisons, souvent sous un petit rebord, un avant-toit, enfin, on le dira tout à l'heure, et souvent à l'angle des fenêtres. Donc, hirondelle de fenêtre, c'est l'hirondelle qui niche près des fenêtres. Et en latin, ça s'appelle... Delicone urbicone. Urbicum. Donc Delicone, c'est une anagramme du mot grec ancien kelidon qui signifie hirondelle. Donc on retrouve la même chose, l'hirondelle. Et Urbicum signifie urbain, de la ville, en latin. Remarquons, si on a le temps, que Linné, en 1758, l'avait classé dans le genre hirundo, comme sa cousine rustique, et qu'elle a changé de genre pour adopter Delicone 100 ans plus tard. Alors en anglais, elle s'appelle Western House Martin, ce qui signifie « hirondelle de maison occidentale ». Alors, les Anglais, ils ont une petite particularité, ils ont deux mots pour parler d'hirondelle. Ils disent « martin », c'est plutôt les petites hirondelles type hirondelle de fenêtre ou hirondelle de rivage. Et puis, ils disent aussi « swallow » pour l'hirondelle rustique. Voilà. Parlons de l'hirondelle rustique deux minutes. Elle s'appelle « hirunda rustica », ce qui signifie exactement en latin la même chose que hirondelle rustique en français. Et en anglais, ça s'appelle barn swallow. Barn, c'est l'étable. C'est donc une hirondelle qui niche un peu dans les étables. On verra pourquoi tout à l'heure. L'hirondelle de rivage s'appelle riparia riparia. Riparia, ça veut dire rivage en latin. Et sand martin, c'est, on retrouve le mot martin comme pour l'hirondelle de rivage, de fenêtre. Et sand, parce qu'elle creuse des terriers dans le sable. Sand, c'est le sable. Mais alors, cet oiseau mystère, c'est quoi ?
Ah, c'est le martinet noir. De son petit nom scientifique, Apus apus, et c'est pas vraiment une hirondelle.
Il a des puces ?
Non.
Et à quoi elles ressemblent les hirondelles de fenêtre ?
Alors, les hirondelles de fenêtre, elles sont assez petites. Hein, en longueur, elles font à peu près 13 cm, en envergure entre 26 et 29 cm aussi. Donc, elles sont bicolores, elles ont tout le dessus noir avec des reflets bleus. Elles ont le croupion blanc, donc le croupion, c'est la fin du dos. Et le dessous entièrement blanc, une toute petite queue fourchue mais qui n'est pas en filet, pas de gorge rouge, non plus, comme l'hirondelle rustique. Et elles ont des pattes recouvertes de plumes blanches.
Et je vais vous parler, moi, un peu de son habitat. On dit que ce sont des animaux rupestres, c'est-à-dire qu'elles nichaient à l'origine sur les parois rocheuses. Comme sa cousine rustique, elle s'est très bien adaptée aux humains, mais elle est plus citadine. Aujourd'hui, on la retrouve surtout en agglomération. Contrairement à l'hirondelle rustique qui aime bien des endroits fermés, comme les étables ou comme les garages. Moi, j'en ai une qui vient dans mon garage. Donc, je suis content parce qu'il paraît que ça porte chance. Les hirondelles de fenêtre, au contraire, elles ont besoin de l'accès à l'espace aérien. C'est pour ça qu'elles sont plutôt sur les façades des maisons, mais plutôt sous un rebord de toit ou au coin d'une fenêtre. On pourrait dire que sa deuxième maison est le ciel et que c'est ce que tu vas nous expliquer, Camille, en nous parlant de sa nutrition.
Oui, parce qu'elles se nourrissent exclusivement d'insectes, donc principalement de petits insectes volants, tels que les mouches ou les moustiques, bonne nouvelle pour moi. Elles les chassent en plein vol, plutôt à grande hauteur, parfois même en compagnie des martinets. Elles sont assez sociables et grégaires, hein, c'est une caractéristique de cette espèce. Donc aussi bien pour se nourrir que pour faire les nids, donc qui sont collés les uns aux autres. Et bien sûr, en hiver, il y a un petit problème puisqu'il n'y a plus d'insectes volants. Est-ce que tu peux nous dire comment elles font du coup pour s'adapter ?
Bah effectivement, en hiver, elles n'ont plus d'insectes, donc elles sont obligées d'aller les chercher ailleurs. Et notre hirondelle est une migratrice. Elle part dès la mi-septembre en Afrique, plus loin que sa cousine rustique, du Sahara à l'Afrique du Sud. Et elle revient plus tard en Normandie, mais pas avant la mi-mars. Comme elle va plus loin, elle revient plus tard. Son nid, on va parler un peu de reproduction, son nid est fait de boue séchée en forme de sphère plus fermée que la coupe ouverte de l'hirondelle rustique et elle se situe sous un abri, donc comme on l'a dit, avant toit ou au rebord de fenêtre. La nidification se fait en colonie entre mai et septembre. Quand elles viennent, on commence déjà dès à présent à les entendre, par exemple au Beau-Sainte-Croix, on verra tout à l'heure ça avec Jean-Pierre. Et quand on a ces hirondelles qui arrivent et toutes qui se regroupent en colonies auprès de leur nid, eh bien, on les entend. Comme on l'a dit, la nidification se fait en colonie, les nids se touchent entre mai et septembre. Elles pondent 3 à 5 œufs blancs et il y a une nichée la plupart du temps par an. Exceptionnellement, il y a une deuxième nichée. Les insectes capturés sont enduits de salive et donnés en pâture aux petits sous forme de boulettes d'insectes. En période d'intempéries, quand la température chute, les jeunes peuvent sombrer dans une sorte de catalepsie et interrompre leur croissance, ce qui leur évite de mourir, quoi. Ils n'ont pas de nourriture, mais ils peuvent quand même survivre un certain temps. La durée du séjour au nid peut varier, elle peut varier de 3 à 5 semaines. Mais où est-ce qu'on peut la trouver, cette hirondelle ? On la trouve partout en Normandie ?
Dans beaucoup d'endroits quand même, mais pas que en Normandie, hein. Elle niche largement sur l'ensemble du territoire métropolitain quand même, y compris en Corse, et elle se reproduit aussi bien en plaine qu'en zone montagneuse. On la retrouve aussi dans toute l'Eurasie, à l'exception de terres arctiques ou subtropicales, de l'Europe occidentale à la Sibérie. En Asie, de l'Atlantique au Pacifique et jusqu'en altitude, tant qu'il y a des villes. Alors, quels sont les dangers qui peuvent menacer ces hirondelles ?
Alors, elle a un prédateur qui est un superbe oiseau, c'est le faucon hobereau, qu'on peut voir quand il y a un regroupement d'hirondelles. Alors, c'est un peu triste parce qu'il y a des hirondelles qui passent, mais c'est un beau spectacle quand même. Hein. C'est un peu terrible. Mais bon, il faut quand même dire que le danger principal, bah, c'est quand même l'absence de nourriture. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une étude pour regarder le déclin des insectes. Il y a un déclin des insectes. Or, ces oiseaux, comme on vient de le dire, sont exclusivement insectivores. Et donc, avec moins d'insectes, bah, il y a moins de nourriture, donc il y a moins d'oiseaux. Et ça, c'est dû malheureusement au fait qu'il y a des champs cultivés, et que dans ces champs cultivés, on met quoi ? On met des insecticides. Et les insecticides, c'est fait pour
Pourquoi ? Pour tuer les insectes. Le deuxième problème qu'elles ont, c'est un manque d'endroits où elles peuvent nicher. Parce que de plus en plus, les maisons sont très propres et il n'y a plus des petits trous, on ne supporte plus d'avoir des salissures sur les maisons. Et donc, les gens, ils détruisent facilement les nids. Ce qui est interdit. Alors, on le verra tout à l'heure avec l'interview de Jean-Pierre et on verra un exemple de protection qu'on a réalisé au Beau-Sainte-Croix. On verra ça lors de l'interview avec Jean-Pierre. Quel est son statut ?
Alors, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, entre guillemets, elle est classée LC. Alors, ça veut dire préoccupation mineure, donc dans le monde, même si elle est en déclin et observée même si un déclin est observé en Europe. Donc, entre 1980 et 2019, la population d'hirondelles de fenêtre montre un déclin de 26% de ses effectifs nicheurs en Europe.
Espérons qu'on verra encore longtemps ces regroupements d'hirondelles nombreux à la fin de l'été. Chez moi, au Val-David, elles se regroupent les hirondelles, alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de nid d'hirondelles au Val-David. Mais quand les hirondelles rustiques commencent à se regrouper pour partir en Afrique, et ben les hirondelles de fenêtre viennent aussi. Et j'ai des regroupements, heureusement, encore assez nombreux, d'hirondelles de fenêtre et d'hirondelles rustiques qui viennent tourner, se fixer sur se poser sur les fils. Et c'est un spectacle magnifique. Et voilà, elle se pose sur les fils électriques un petit peu comme des notes de musique sur une portée. Eh bien justement, pause musicale.
Eh bien, c'était Pink Floyd, Grantchester Meadow.
Et on est toujours sur Radio Biodive avec Principe Actif. Et ce mois-ci, l'interview est un petit peu différée. On a été interviewé notre ami Jean-Pierre qui suit une colonie d'hirondelles de fenêtres au Beau-Sainte-Croix. Bon, bah aujourd'hui, on est avec Philippe. Je suis avec Philippe et puis on vient interviewer Jean-Pierre qui est chez lui dans son fief au Beau-Sainte-Croix. Salut Jean-Pierre.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bon, on va parler de quoi aujourd'hui, du coup ?
Ben, on va parler des hirondelles de fenêtres, c'est-à-dire des oiseaux qui viennent régulièrement, tous les ans, coloniser notre village, là, depuis déjà pas mal d'années. En fait, on s'en est inquiété. Au début, on les voyait assez régulièrement, mais bon, on ne faisait pas trop attention. Et puis, quand il y a eu les projets de travaux de rénovation de l'école, de la partie qui logeait la directrice de l'école, on s'est dit il y a peut-être un problème parce que les fenêtres vont être changées et il va falloir qu'on enlève les nids ou qu'on les déplace. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est inquiété et qu'on a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et avec Naturellement Roy, donc, on a créé un dossier qu'on a présenté à la DREAL pour faire cette opération.
Ouais, oui, parce qu'il
faut bien préciser qu'on n'a pas le droit de détruire les nids de ces hirondelles.
Absolument.
De toutes les hirondelles.
Oui, c'est ça, exactement.
Espèce protégée, donc espèce interdiction protégée de détruire les hirondelles, mais de détruire aussi les nids, même si c'est en hiver et qu'elles ne sont plus là.
C'est ça, exactement. Donc on a décidé de poser des nids artificiels.
Eh bien, on va se rapprocher.
Eh bien, voilà.
Du coup, on connaît un peu le dossier parce qu'on a accompagné la mairie, mais ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des travaux qui sont prévus, qui sont obligatoires. Là, rénover les fenêtres, par exemple, pour gagner en déperdition de chaleur et en confort, etc., c'est des travaux qui sont indispensables. Mais il y a quand même une petite procédure à faire quand on veut faire des travaux et que ça impacte des nids d'hirondelles.
Ah oui, ça les impacte parce que en fait, les hirondelles de fenêtres nichent à l'extérieur des bâtiments et notamment dans les encadrements de fenêtres. Et dès qu'on va toucher à la fenêtre, dès qu'on va vouloir la changer, bah on va être obligé de casser le nid. Et c'est là le problème, quoi. Du coup, on a protégé les encadrements de fenêtres pour empêcher les hirondelles de s'installer. Et on a compensé en mettant d'autres nids artificiels ailleurs. Pas très loin pour ne pas déstabiliser la colonie, bien sûr.
Alors on peut dire que ouais, du coup les hirondelles elles aiment bien vivre, tu parles de colonies, donc elles aiment bien vivre ensemble en fait avec plusieurs nids.
Oui, alors il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que tout ça est contrôlé par un organisme officiel.
Ouais, on peut pas. Alors quand on veut faire des travaux et que ça impacte des nids d'hirondelles, effectivement, il faut faire une procédure auprès de la DREAL, donc c'est la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement.
Et toi, Alex, tu fais une demande officielle?
Ouais, du coup, on a accompagné la commune, donc on a fait une demande, donc il y a une procédure à respecter. Déjà, il y a un timing où il faut intervenir. Donc évidemment, on va pas faire les travaux et détruire les nids d'hirondelles au moment où les hirondelles sont là, parce que sinon on détruit la nichée et on détruit les jeunes ou les œufs, donc c'est vraiment...
Donc travaux en hiver.
Travaux en hiver. Alors nous, ce qu'on a proposé avec Jean-Pierre, l'idée c'était de détruire les nids en hiver qui allaient être impactés par les travaux. On ne savait pas trop la date où allaient être faits les travaux. Et du coup, de proposer des nids de substitution au moment de travaux. Alors après, on a quand même dit à l'entreprise qu'il fallait faire les travaux assez rapidement. Et je crois qu'ils ont fait pendant l'hiver. Mais après, on peut aussi anticiper, si les travaux, par exemple, doivent être faits l'été, on peut anticiper l'hiver de détruire les nids, proposer des nids artificiels.
C'est ça, oui, tout à fait. Exactement.
Il y a tout un protocole à suivre. Si c'est à moins de 100 mètres, si les nids artificiels sont posés à moins de 100 mètres des nids originels, on peut mettre qu'un nid détruit, un nid artificiel. Si c'est à plus de 100 mètres, il faut mettre deux nids artificiels pour un nid détruit. Il faut doubler la mesure compensatoire. Et après, il y a un suivi qui doit être fait pendant 3 ans pour voir si la mesure compensatoire est efficace.
Là, ça a bien marché, puisque en fait, depuis ces 3 ans, c'était 2021 exactement qu'on a installé ça. Donc ça fait plus de 3 ans d'ailleurs. Et donc du coup, ça a maintenu la colonie. Ça s'est bien passé, puisque maintenant, la colonie est toujours là, elle vient tous les ans.
Et je pense qu'on peut facilement dire que Si on n'avait pas mis ces nids de compensation et que les nids avaient été détruits, ça aurait pu fortement impacter la colonie.
On aurait pu perdre la colonie, carrément. C'est-à-dire que en dessous d'un certain seuil d'individus, eh bien, les oiseaux ne viennent plus, quoi. Parce que ce sont vraiment des oiseaux coloniaux, donc ils ont besoin d'être ensemble. Donc si vraiment les conditions ne sont pas réunies pour les accueillir, bah, ils abandonnent le territoire, quoi. C'est ça le problème.
Donc, et puis, c'est quand même pas très compliqué à mettre en place. Là, tu t'expliquais tout à l'heure qu'on avait fait le choix de pas laisser la possibilité aux hirondelles de se réinstaller sur les fenêtres pour pouvoir avoir une cohabitation. Mais c'est vrai que même si chez vous, vous avez des hirondelles, vous avez des difficultés de cohabitation, soit aux salissures, soit parce que vous ne pouvez pas fermer vos volets ou ouvrir vos fenêtres. Faut savoir quand même que les hirondelles de fenêtres, si on met un nid artificiel au-dessus de la fenêtre, juste dans le même axe, mais au-dessus de la fenêtre, elles ont quand même tendance à bien accepter les nids d'hirondelles. Nous, à l'association, on a accompagné plusieurs communes comme ça qui avaient des soucis de cohabitation. Et on a 2 sur 3 où ça a très bien marché, une où c'est un peu plus compliqué, mais généralement elles arrivent quand même à bien accepter, quoi.
Oui, oui. Bah, là on a l'exemple, hein, les nids artificiels qui ont été posés, on voit les murs sont propres, parce que bon, ces nids sont bien fichus, dans la mesure où l'ouverture du nid se situe vers l'extérieur, vers la cour. Donc du coup, bah, il n'y a pas de salissure le long du mur. Et ça on le voit tout de suite, hein, ça fait plusieurs années que ça a été posé, et là le mur est impeccable.
Et là, en plus, on a vraiment fait on a créé une structure qui est, parce qu'à la base, le mur est pas forcément favorable à l'installation de nids d'hirondelles parce qu'il n'y a pas d'avancée de toit de ce côté-là.
Oui.
Mais on a créé une structure qui imite une avancée de toit.
Oui.
Et finalement, elles ont quand même accepté assez facilement ce nouvel endroit qui n'était pas forcément adéquat à la base, quoi.
Oui, tout à fait. Et de l'autre côté aussi, il y a, alors là, par contre, c'est sur le bord des fenêtres. C'est bien sur le bord des fenêtres, enfin près du bord des fenêtres, et là on voit pareil, hein. Ça, ce sont des nids qui ont été ajoutés récemment, donc celui-ci a été fait l'année dernière, et puis l'autre aussi également, et donc ils sont pas loin des rebords des fenêtres, on voit c'est propre, hein. C'est impeccable. Enfin, faut dire qu'on a fait le nettoyage avec Camille il y a pas longtemps, mais puisque tous les ans en fait on fait un nettoyage des nids, pour enlever les oiseaux morts, les œufs qui sont restés, les parasites, etc. Donc, à chaque fois, il y a un stagiaire, naturellement Roy, qui vient pour m'aider.
C'est le bisutas des stagiaires.
Voilà, c'est ça, exactement. Et bah, ils sont contents, parce que je crois que Camille était très intéressée par ça. Ça lui a plu, je crois. Elle a bien vu ce qui se passait.
Et puis, l'avantage, ouais, aussi, du coup, c'est, tu précises là, c'est que les nids sont amovibles, en fait.
Alors, les nids sont amovibles, oui, tout à fait. On peut les démonter très facilement, et puis les remonter aussittôt. Donc, c'est ça l'avantage des nids artificiels.
Bah, après, on peut rajouter qu'on n'est pas peu fiers, parce que finalement, alors on était à moins de 100 mètres, parce qu'on a proposé des nids de compensation à même pas 30 mètres des nids détruits. Et on a quand même proposé à la commune qui a accepté de doubler la mesure compensatoire, même si on était à moins de 100 mètres.
C'est donc ça.
Pour un nid détruit, on a mis 2 nids artificiels. Et au bout de 3 ans, on en est où là, Jean-Pierre ?
Bah, faut dire que effectivement, la mairie nous a bien aidés quand même. Ils étaient très favorables à l'installation de ces nids. Donc ils ont bien compris l'utilité et puis la nécessité de sauvegarder cette espèce. Et donc du coup, bah, on a posé donc 7 doubles nids ici sur la partie est de la mairie. Et on en a reposé 2 autres récemment sur la partie nord. Donc ça nous fait 9 nids doubles. Ce sont des nids doubles, donc ça fait 18 couples potentiels pour la mairie, qui sont sur la mairie. Et puis du côté de l'école, on le verra tout à l'heure, il y a 8 nids, donc 4 doubles qui ont été posés également. Donc ces nids ont été colonisés assez rapidement, bien que ça a mis un certain temps. C'est-à-dire qu'en fait, on les a posés au mois de mars 2021 et puis ils ont été colonisés qu'à partir de juin. Donc les hirondelles ont quand même une certaine réticence à s'installer au départ. Ils ont pris leur temps, ils ont essayé de voir ce que c'était que ces nouveaux trucs. Et finalement, bah, ça s'est bien passé. Et puis pratiquement, ils sont utilisés, pas à 100%, mais pas loin, tous les ans. Donc,
ouais, donc on a presque doublé la colonie en 3 ans finalement.
Oui, on a une trentaine de couples maintenant qui se sont installés. Alors c'est vrai qu'on en avait moins au départ. Hein. Je pense que aux alentours de 2020, on en avait pratiquement la moitié, oui. Et là, ils sont bien installés. Et puis du côté de l'école également, côté mairie et côté école. Donc je pense qu'il y a eu une synergie qui s'est faite entre les deux. Qui était bien et qui a maintenu la colonie stable. Voilà, c'est ça.
Bon, ben, merci Jean-Pierre. Et puis, n'oubliez pas que les hirondelles sont intégralement protégées et que donc détruire des nids, même en hiver, c'est interdit. Vous n'hésitez pas, si vous constatez qu'il y a des petits problèmes de cohabitation entre les hirondelles et que vous constatez des destructions, n'hésitez pas à nous contacter, nous, notre association Naturellement Rayé, ou même l'OFB. L'Office français pour la biodiversité.
Parfait. Eh ben, je pense que c'est le moment de passer aux sorties du mois.
Ça se passe près de chez vous !
Alors, dans le cadre du programme Découvrez la nature dans l'heure, le samedi 2 mai, vous pouvez partir à la découverte de la faune et de la flore de Courseulles-sur-Seine à travers une balade en chanson et en poème. La vannerie, ça vous dit ? Le dimanche 10 mai à Pont-Audemer, apprenez à fabriquer une boîte en roseau et en saule, un moyen d'apprendre de se détendre et de se reconnecter à la nature. Le mercredi 20 mai à Pose, vous serez accompagné d'un ornithologue pour découvrir la réserve ornithologique afin de devenir incollable sur les oiseaux normands. Vous pouvez retrouver toutes les animations sur le site internet lanaturedansl'heure.fr. Et voilà un événement à ne pas manquer au château de Trangis à Évreux. Il y a le Salon des Plantes, ce sera le samedi 9 et le dimanche 10 mai. Entre horticulteurs, artisans, ateliers et petites gourmandises, vous trouverez forcément le bonheur des petits et des grands. Et cette année, exceptionnellement, le château, qui est nouvellement restauré, vous ouvrira ses portes durant les 2 jours du salon pour accueillir 2 expositions différentes. Le jeudi 21 mai à 18h30 à la médiathèque d'Évreux, vous pouvez participer à la formation de la LPO sur les petits oiseaux des zones humides. Allez, je fais aussi un petit peu de pub pour nous. Le mercredi 28 mai à 20h30, à la Maison des Solidarités de Gravigny, venez découvrir les rapaces diurnes. Ce sera l'occasion de découvrir ces petites merveilles de l'évolution et même, pourquoi pas, intégrer le réseau de bénévoles de l'ASSO. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les sorties et infos sur le site de l'émission. Et si vous souhaitez faire la promo de vos sorties nature, vous pouvez nous contacter. On vous demandera juste de faire un petit enregistrement que l'on diffusera à la prochaine émission.
Et j'en profite pour dire qu'au Salon des Plantes, on sera présent. Donc si vous êtes tombé amoureux de nos douces voix et que vous voulez nous voir en vrai, n'hésitez pas à passer au Salon des Plantes. On aura un super stand avec plein de jeux.
Au côté biodiversité.
Et maintenant, c'est les conseils de lecture.
Le livre que je vous propose aujourd'hui s'appelle « Le poids du papillon » d'Héry de Luca. Comme en ce moment, on n'a pas trop le temps de lire et qu'on passe plus de temps dans la nature, hein, avec ces belles journées, j'ai plutôt choisi un livre, un petit livre d'une 60aine de pages, mais qui est grand par la densité de son propos. Il évoque les vies parallèles d'un vieux chamois, roi de Saharde, mais qui voit sa suprématie contestée par sa descendance, et celle d'un vieux braconnier solitaire qui cherche depuis longtemps à l'abattre pour son trophée. Le jour où le chamois est devenu roi, un papillon blanc s'est posé sur sa corne gauche, ensanglanté par le combat avec un rival. On rencontrera par la suite ce papillon à plusieurs reprises durant le récit. Ces deux protagonistes vivent seuls, l'un à l'écart de son groupe, l'autre dans une cabane en pleine montagne. Ce sont deux forces de la nature qui s'opposent, mais qui finiront par se rencontrer lors d'une ultime confrontation. Chacun observe l'autre et use de diverses ruses. L'isolement du chamois n'est interrompu que par sa visite aux femelles de son groupe. La solitude de l'homme est, elle, interrompue par sa descente au café du village, où il ne communique qu'avec son harmonica. Néanmoins, il y rencontre une journaliste qui veut l'accompagner en montagne. Suite alors pour lui une réflexion, tout en suggestion et subtilité, sur sa vie d'homme. Un geste esquissé aurait-il pu changer son destin ? Mais il fallait qu'il reparte en chasse. Et finalement, c'est le petit papillon blanc qui aura le dernier mot. Ce court récit poétique nous invite donc à de nombreuses réflexions au fur et à mesure de sa lecture. La narration par ellipse laisse notre esprit vagabonder de pensée en pensée sur le sens de la vie, la force du destin, l'acceptation d'une fin inéluctable, sur le regard que chacun porte sur la nature et peut-être aussi sur un sentiment de vanité. transparaît donc aussi au travers de ce livre, un véritable hymne à la nature et du rapport que l'homme entretient avec elle. Cet amour de la nature est confirmé par la courte histoire qui clôt le livre, intitulée « Visite à un arbre ». À lire tranquillement, assis devant un beau paysage.
Eh bien, maintenant, le moment est venu. Nous sommes toujours sur Principe Actif, dans notre émission Radio Biodive, et est-ce que vous avez trouvé quel est ce son ?
Alors, c'est un son assez puissant qu'on entend principalement la nuit, donc vous ne pouvez pas l'entendre le jour, et c'est la rainette arboricole, la rainette verte. On l'appelle rainette arboricole parce qu'au lieu d'avoir les pattes palmées, elle a des petites ventouses au bout des doigts, ce qui lui permet de monter dans la végétation. Mais elle a quand même besoin d'une mare pour se reproduire. Donc si en ce moment, vous la nuit, vous entendez ça, ça peut être très intéressant de l'enregistrer et de l'envoyer. Alors soit à nous, soit vous allez sur indragon.org et en fait, vous pouvez participer comme ça à la connaissance de cette espèce. Et on retrouve des nouvelles populations qu'on ne connaissait pas tous les ans. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que vous l'entendez depuis des années qu'elle est connue et c'est toujours intéressant pour pouvoir la protéger plus tard.
Eh bien, c'est le moment des remerciements. Nous arrivons à la fin de notre émission. Donc évidemment, merci à Clotaire et à Aliénor qui nous ont fait les petits génériques. Merci Joël pour les conseils de lecture. Merci Camille pour toute ta participation. Merci Alex. Merci Damien qui nous accompagne depuis le début.
Merci Philippe.
Merci à Jean-Pierre. Et puis, nous verrons la prochaine émission ce que nous ferons.
Ah ouais, alors on ne sait pas si on sera prêt, mais il y aura peut-être une surprise un peu plus locale.
On verra.
Gardons le suspense. On garde le suspense.
Maintenant, le mot de la fin est à la nature. On vous emmène au bord de la mer avec un enregistrement de notre ami Jean-Luc Herrel, dont on vous a déjà parlé, qui nous a laissé des enregistrements de nature. Et là, on est au bord de la mer en Normandie avec des mouettes et des goélands.